Talmudique.
Sans cesse répète,
ah ça ira, ça ira, ça ira.
Malgré les mutins, tout réussira. Nos ennemis confiants restent là, et nous allons chanter Alléluia.
Ah ça ira, ça ira, ça ira.
Envoie le jadis du clergé par là, comme un prophète, il prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira.
Nous sommes en train d'entendre un célèbre chant révolutionnaire qui date de la Révolution française de 1789, révolution d'une grande actualité dans l'esprit de nombreux de nos contemporains qui s'y réfèrent aujourd'hui comme modèle de leur action, qu'ils se nomment gilets jaunes, verts ou rouges, en fonction des différentes revendications qui les animent. C'est l'histoire qui est convoquée, c'est à l'expérience du passé, réelle ou fantasmée, auxquels ces hommes et ces femmes se réfèrent comme exemple d'un changement possible, d'une chance de réussir, puisque cela a déjà marché. Ils puisent dans l'histoire et le passé un espoir, une force, une dynamique qui les pousse à l'action. La figure de femmes et d'hommes particulièrement charismatiques les inspire et les porte, comme Marianne guidant le peuple. Le phénomène n'est pas nouveau et se répète de génération en génération, de révolution en révolution, et sans doute est-il urgent de l'interroger. Qu'en est-il de cette expérience du passé? L'expression n'est-elle pas déjà paradoxale? Car le passé est passé et nous ne pouvons pas en faire réellement l'expérience. Et d'ailleurs, est-il reproductible? Et quand nous disons le passé, de quoi parlons-nous exactement? La grammaire connaît le passé simple, mais le passé ne semble pas si simple que cela. Et si on peut le dire composé, c'est aussi parce qu'il est composé de multiples passés que les chercheurs dans différentes disciplines ont décliné, chacun à leur façon. Le passé explose en un feu d'artifice d'adjectifs dont la connaissance et la compréhension sont de véritables outils pour l'intelligence et la compréhension que nous pouvons avoir de notre perception du monde. Au fil des lectures, nous découvrons le passé total, le passé absolu, le passé actuel, le passé pratique, le passé subi, le passé choisi, le passé caricaturé, le passé inachevé, le passé recomposé et même le passé futur. Sans compter tous les jugements qui concernent le passé et ses modalités, son utilité ou son inutilité, sa singularité, son unicité, sa nouveauté, sa caducité ou son obsolescence. Et si l'histoire de la pensée connaît des futurologues, l'urgence est peut-être aujourd'hui aux passéologues. Je sais, ce néologisme peut faire sourire, mais il n'a que la vocation d'attirer l'attention sur un sujet éminemment complexe et si fondamental. Il dit aussi que cette question du passé dépasse l'expertise des seuls historiens et requiert le point de vue éclairé des philosophes, des écrivains et des poètes, des artistes, des théologiens, des politiciens, des juristes et des psychanalystes, sans oublier les hommes de science, car les neurosciences ont sans doute beaucoup de choses à nous apprendre sur ce sujet. Et ce sont deux de ces passéologues qui, j'espère, me pardonneront cette appellation non encore contrôlée que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour approfondir cette expérience du passé. Myriam Binnenstock, Christophe Bouton, bonjour.
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 Tous deux éminents professeurs d'université en philosophie, cette question de l'expérience du passé vous est particulièrement familière. Vous y avez consacré de nombreuses recherches et publications et vous avez organisé un colloque sur ce thème à l'Université de Bordeaux en 2016, dont les actes et quelques contributions supplémentaires ont été publiés en 2018 aux éditions de l'Éclat sous le titre « L'expérience du passé, histoire, philosophie, politique ». Un de ces livres dont on sort de la lecture avec ce sentiment vraiment très clair d'être devenu plus intelligent et aussi, c'est un corollaire classique, beaucoup plus joyeux. J'aimerais commencer notre conversation d'aujourd'hui par l'analyse de trois formes de passé qui sont au cœur de toute expérience du passé, le passé total, le passé historique et le passé pratique. Christophe Bouton.
Oui, alors cette distinction des trois formes de passé... on la trouve chez Aidan White, un des grands spécialistes de la théorie de l'histoire, qui d'ailleurs est mort très, très récemment. Et dans son dernier livre, il propose cette distinction. Donc le passé total, c'est l'ensemble des événements qui se sont produits dans le monde et qui ne sont plus. Le passé historique, ça correspond au passé recomposé par les historiens qui n'est qu'une petite partie du passé total, basée sur les traces et les recherches des historiens. Et Aidan White ajoute le passé pratique, qui est le passé censé répondre à la question « que dois-je faire ?». Alors, on peut répondre à partir de principes philosophiques, à partir d'intuitions, mais on peut aussi y répondre en se référant à son propre passé ou au passé tel qu'on le connaît grâce aux historiens. Et c'est cette fonction pratique du passé qui est mise en avant dans cet ouvrage collectif. Fonction pratique du passé qui remonte à l'Antiquité, en fait. Hein, je mentionne le thème de Cicéron, de l'Historia Magistra Vitae, de l'histoire maîtresse de vie, parce que, donc, à l'époque de Cicéron, déjà, il est connu que l'histoire a une fonction de connaissance, mais aussi une fonction politique, une fonction rhétorique aussi, que Cicéron résume dans cette formule, en se référant d'ailleurs à des historiens bien avant lui, comme Polybe ou Thucydide. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce collectif, c'est de voir comment cet aspect pratique de l'histoire évolue sur la longue durée. Donc, il y a un article d'Olivier de Villers sur l'Antiquité, des articles sur la période des Lumières, et on s'est aussi demandé ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui, hein, ce passé pratique, dans le contexte agité d'une Europe où on observe la montée des xénophobies. Donc, se pose à l'arrière-plan de ce volume, la question aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte de l'expérience du passé, ou est-ce qu'au fond, les leçons de l'histoire sont une problématique devenue obsolète? C'est la question qu'on pose, en essayant de répondre quand même plutôt en faveur d'une utilité de l'histoire pour la vie.
L'histoire nous offre des leçons de vie, selon la formule de Cicéron, Historia Magistra Vitae, que vient d'évoquer Christophe Bouton. Les philosophes sont divisés sur cette question. Dans sa philosophie de l'histoire, qui a été éditée sous votre direction, Myriam Bidenstock, Hegel écrit « L'histoire et l'expérience enseignent que les peuples n'ont rien appris de l'histoire ». Je comprends qu'il n'y a pas d'historia magistra vitae pour Hegel, semble-t-il, à moins qu'il faille faire la différence entre les peuples et les hommes, ou en tout cas certains hommes.
Oui, alors je ne sais pas si, selon Hegel, effectivement, il y a des leçons à tirer de l'histoire. Mais peut-être pourrait-on dire que, selon Hegel, l'histoire a un sens. Ce qu'il affirmait et ce qu'il répétait, c'est qu'elle est un progrès dans la conscience de la liberté. Et tous les termes ici sont importants. Il ne disait pas que dans l'histoire, les hommes sont effectivement de plus en plus libres. Il disait qu'il y a un progrès dans la conscience de la liberté, c'est-à-dire que les hommes ont pris conscience de l'importance de la liberté, du fait que la liberté, c'est une valeur qui est importante. Et il associait cette prise de conscience, effectivement, à la Révolution française et à la promulgation du Code civil, par lequel tous les hommes, et aussi les juifs, pour les femmes, il y avait encore des progrès à faire, mais on en a fait un petit peu, tous les hommes avaient été reconnus comme ayant le droit d'être libres. Vous savez que, pour cette raison, le Code civil, Napoléon a été fêté un peu partout en Europe, également par les Juifs, qui pensaient que ces armées victorieuses apportaient aussi, dans leurs valises, les droits de l'homme. Hegel reconnaissait aussi, pourtant, que la valeur de la liberté elle-même était beaucoup plus ancienne. Il la rattachait au droit romain et au christianisme. Et je me rangerai ici derrière lui, avec bien d'autres auteurs d'ailleurs. Ainsi, par exemple, je me rangerai derrière quelqu'un qui s'appelle Shlomo Pines, un grand historien juif, né et éduqué en France, mais aussi en Allemagne, qui a fait toute sa carrière ensuite à l'Université hébraïque de Jérusalem, et qui disait, je cite une présentation en français de son œuvre malheureusement trop peu connue, que le concept de liberté, au sens politique ou religieux d'idéal vers lequel il convient de tendre, ne se trouve pas dans la Bible hébraïque, parce que les termes bibliques qui renvoient à l'idée de liberté ne sont employés que dans un contexte juridique de libération d'un esclave. Et c'est seulement au premier siècle avant et après notre ère qu'on aurait commencé, parmi les Juifs de Palestine, alors qu'ils livraient un combat contre les Romains pour la liberté, à utiliser le terme de liberté comme un mot d'ordre politique et religieux particulièrement important.
C'est alors, nous sommes dans une émission qui s'appelle Talmudique, c'est alors que les maîtres du Talmud vont décrire la sortie d'Égypte dans la Haggadah de Pessah comme la sortie du peuple de l'esclavage à la liberté. Et Shlomo Pinès affirme non pas seulement que ce concept a été intégré chez les Juifs à partir de la culture gréco-romaine, mais qu'il s'est transformé en passant au cadre juif, car les Juifs étaient alors un peuple asservi et pour eux la liberté n'était pas un état de fait et ne pouvait représenter qu'une aspiration à la libération. C'est seulement alors, disait Shlomo Pinès, que l'exigence de libération d'un peuple serait devenue, je cite, « l'un des événements les plus décisifs de l'histoire juive, ayant des conséquences significatives sur l'histoire générale, donc vous penserez à l'époque de la révolte de Bar Kokhba. » Selon Pinès, les Juifs auraient été le premier peuple qui, dans une situation de domination politique, aurait créé une idéologie de la libération liée au slogan de liberté. Et il soulignait donc que la liberté, comme mot d'ordre de révolte des opprimés contre leurs oppresseurs, est l'un des héritages que le judaïsme donne au monde. Est-ce donc cela l'expérience à tirer de l'histoire ?
Oui, alors c'est formidable ce que vous dites, parce que on parle de révolution française, mais vos propos au nom de Pinès sont absolument révolutionnaire, parce que dans l'esprit collectif de chacun qui pense le judaïsme, pense que la liberté est quasiment ontologiquement liée au texte biblique, ne serait-ce que dans ce verset de Dieu qui décline sa carte d'identité et qui dit « Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison d'esclavage ». Et donc, on a l'impression que « Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », c'est-à-dire un Dieu de la libération et un Dieu de la liberté. Or, ce qui semble être biblique, vous nous dites au nom de Monsieur Pinès, que c'est quelque chose qui a été forgé dans des catégories talmudiques à l'époque romaine, sous domination romaine, pour faire valoir, pour mettre en mouvement ce mouvement de libération. C'est très, très, très intéressant. Et donc, de là, aujourd'hui, les Juifs qui ont oublié que c'est talmudique se réfèrent à la liberté au sens biblique. Alors, Christophe Bouton, nous venons de voir un exemple qui est tout à fait intéressant, c'est que l'histoire nous permet de repenser les catégories même de l'histoire, mais sommes-nous aujourd'hui à l'ère de la disparition de l'histoire maîtresse de vie, ou, selon le terme de Reinhard Koselleck, à l'ère de sa dissolution? Quels sont les arguments philosophiques que les détracteurs de l'Historia Magistra Vitae convoque pour appuyer cette thèse?
La thèse de l'histoire maîtresse de vie, elle dure extrêmement longtemps, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, où elle se repère chez les philosophes, les historiens. Mais c'est vrai qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec la période des Lumières et ensuite la Révolution française, le rapport au passé va se modifier, et c'est la thèse de Koselleck, le thème de l'histoire maîtresse de vie va être critiqué, remis en cause. Alors, de trois points de vue. D'abord, pour une pensée des Lumières et du progrès, le passé devient synonyme de tradition avec laquelle il faut rompre. Donc à partir du moment où on pense progrès et nouveauté, on dit il faut laisser le passé là où il est et ne plus s'en inspirer. Ensuite, il y a aussi un argument qu'on pourrait dire épistémologique de la part des historiens, car l'histoire se forme comme discipline académique tout au long du XVIIIe siècle, et les historiens disent que quand on veut tirer des leçons du passé, on a tendance à ajouter des jugements de valeur dans la connaissance du passé, qui créent des biais, qui déforment les documents, les événements. Et donc, si on veut avoir une histoire scientifique, il faut avoir une histoire théorique et plus une histoire à dimension pratique. Ça va être la thèse de Ranke au début du 19e, qui dit que pour lui, il ne s'agit pas de donner des leçons, de juger le passé, mais simplement de le connaître tel qu'il a été. Et le troisième argument qui est mis en avant, c'est l'idée qu'on prend conscience de la singularité du passé, l'idée d'une historicité qui fait que chaque époque, chaque événement sont uniques. Et du coup, dans une situation présente, on peut pas utiliser le passé. C'est d'ailleurs l'un des arguments de Hegel mentionné tout à l'heure, parce que le présent est nouveau, est différent, donc on peut pas extrapoler du passé au présent. Alors, il n'en demeure pas moins qu'en réalité, les peuples, les hommes d'État, les philosophes continuent à se référer au passé après cette période, au 19e, au 20e siècle. Et donc, moi, je dirais que le passé pratique est transformé de différentes manières. Et notamment, je donnerai un exemple, on se réfère au passé pour non pas suivre la tradition ou confirmer la tradition, mais plutôt pour justifier des changements. Et c'est comme ça que la Révolution française, tout au long du XIXe siècle, va être une sorte de modèle pour les révolutionnaires de 1830, de 1848, de 1870. Et donc le passé va devenir source d'inspiration, non pas pour conforter la tradition, mais pour tenter de faire la révolution.
Un petit peu comme cette formule de Harold Rosenberg, la tradition du nouveau.
Exactement.
C'est alors, c'est une forme de paradoxe, mais qui aiguise l'oreille. Alors, il y a ces refus philosophiques argumentés de l'utilisation du passé de manière pragmatique, mais je pense aussi à ceux qui, par principe idéologique, refusent le passé. Dans un discours radiodiffusé le 10 mai 1933, Goebbels exhorte à préserver l'esprit allemand contre celui du passé, et c'est ainsi que vont brûler à Berlin quelques 20 000 livres dans un auto-da-fé célèbre à propos duquel Joseph Roth a écrit des pages sublimes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui, par principe, refusent idéologiquement le passé? Et donc là, c'est un refus du passé, non pas fondé sur des arguments philosophiques, mais sur des arguments idéologiques, Christophe Bouton.
L'exemple que vous donnez pose le problème du rapport du totalitarisme au passé. Et là, en fait, on a deux cas de figure. On a le cas de figure de Goebbels, qui dit qu'il faut faire table rase du passé, c'est-à-dire rompre avec une tradition allemande qui renvoyait à des valeurs complètement opposées au nazisme. Donc ça, il fallait le détruire, le brûler. Et puis il y a un autre rapport au passé intéressant qu'on trouve aussi dans le Troisième Reich, qui est l'idée qu'on va déformer le passé, on va utiliser idéologiquement le passé pour justifier le régime. C'est comme ça que les nazis se sont inspirés de la Rome antique, y compris dans l'architecture ou dans d'autres discours, pour légitimer leur régime. Et on peut aussi penser dans un autre registre au roman d'Orwell 1984, où il y a un ministère chargé de réécrire l'histoire. C'est-à-dire que là, le passé sert, il est utile, mais complètement déconnecté du passé historique des historiens et complètement pris dans une idéologie. Donc c'est un double danger, je dirais, qu'on a dans le rapport au passé posé par les totalitarismes.
En direct du mur de Berlin, Philippe Rochaud. Oui. Philippe, une question toute simple pour commencer. Philippe, où êtes-vous ce matin et que se passe-t-il autour de vous?
Écoutez, nous sommes à Checkpoint Charlie. Vous savez que c'était le point de passage réservé aux étrangers. Et là, tout le monde, les Allemands de l'Est, se mélangent aux Polonais qui, d'habitude, passent la frontière pour aller vendre au marché noir leur caviar sur Potsdamer Platz. Et vous voyez, ici, il y a une file d'attente d'environ 300 mètres pour passer. Il faut attendre une heure et demie. Et puis, de l'autre côté également, il y a 300 mètres de file d'attente d'Allemands de l'Est qui veulent venir passer le week-end à l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le mur que vous voyez ici en bas, on a refait les inscriptions, c'est-à-dire qu'on a marqué le 10 novembre comme une date vraiment historique. Et puis, on me signale que M. Rostropovitch, qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, va jouer, se prépare à jouer. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'entendre, Daniel.
Oui, on le voit à l'image en tout cas là.
Je crois que c'est un événement quand même extraordinaire, c'est-à-dire que chacun veut venir saluer à sa manière l'ouverture du mur. Thank you.
Rostropovitch, Bach, 1989, effondrement du mur de Berlin, symbole très émouvant. C'est votre choix, Christophe Bouton. Comment l'articulez-vous plus précisément à la question des leçons du passé? Question importante pour notre temps où l'Europe est au centre de nos préoccupations. N'y a-t-il pas ici quelque chose proche de ce que Walter Benjamin appelait l'image dialectique? Image qu'il cherche parfois à nous faire comprendre en usant de l'image du saut du tigre. Un rapport au passé qui n'est pas souvenir mais remémoration selon ses termes. Christophe Bouton.
J'ai choisi l'exemple de Rostropovitch parce que d'abord ça renvoie à la chute du mur de Berlin, aussi parce que Rostropovitch, que fait-il quand il va jouer à Checkpoint Charlie du Bach? Eh bien, il fait se rencontrer le présent de l'événement historique avec l'Allemagne du XVIIIe siècle, et ça rappelle un peu ce que Benjamin appelle l'image dialectique du passé. Alors, on peut, pour les auditeurs, rappeler que Benjamin a écrit des thèses sur le concept d'histoire juste avant sa mort en 1940, et que donc elles sont parues en 42, et elles ont donné lieu à des exégèses très nombreuses. Elles sont extrêmement importantes pour la pensée de l'histoire aujourd'hui, et nous avons trois contributions dans ce volume pour nous guider dans le labyrinthe des thèses de Benjamin. Et il y a la thèse 14 qui traite de ce qu'il appelle le Jetztzeit, de l'à-présent, qui est donc l'idée que le passé va surgir dans le présent, va rencontrer le présent dans une sorte de constellation dans le cadre d'un processus révolutionnaire. Benjamin donne l'exemple de la Révolution française et du fait que Robespierre se soit inspiré de la Rome antique, en particulier de la République romaine, pour légitimer son action. Donc on fait quelque chose d'inédit, mais on se réfère quand même à des précédents par analogie pour renforcer son action. Et Benjamin utilise cet exemple pour construire ce concept d'image dialectique du passé qu'il illustre à l'aide d'une métaphore étonnante, celle d'un saut du tigre dans le passé. Donc le révolutionnaire est comme ce tigre qui va flairer dans les fourrés de l'histoire des événements historiques qui servent de précédents, qui inspire, et donc le saut du tigre a un double mouvement, du présent vers le passé, mais aussi du passé vers le présent et l'avenir. Il y a une dimension messianique dans cette conception de l'histoire, puisque on va utiliser une image du passé, en l'occurrence la Rome antique, pour construire une révolution. Et les modèles de Benjamin, en l'occurrence, c'est pas simplement la Révolution française, hein, c'est toute l'histoire de la reprise de la thématique de la Révolution au XIXe siècle, comme je le disais tout à l'heure, 1830, 1848, 1870. Là, l'article de Michel Rios-Arce est tout à fait éclairant sur le sujet. Et vous évoquiez au début les Gilets jaunes. On peut penser, avec toute la prudence que requièrent les analyses sur ce mouvement, que la référence à la Révolution française par certains membres de ce mouvement rappelle cette image dialectique du passé comme une sorte de source d'inspiration dans un mouvement de lutte sociale et politique.
Alors, on va vers le passé, mais on sauve aussi le passé. Vous écrivez, avec sa notion de rédemption, Benjamin a ajouté une nouvelle fonction de l'histoire, non seulement connaître, légitimer, juger, mais aussi sauver le passé, réactualiser ses possibilités oubliées. Benjamin parle d'histoire à rebrousse-poil. Encore une image, et le pelage du tigre n'est pas loin. Christophe Bouton.
C'est une idée très originale de Benjamin, je pense nouvelle, d'utiliser le concept de rédemption qui vient du messianisme pour l'appliquer au passé avec celui de remémoration. Et l'idée de sauver le passé, ça veut dire déjà prendre en compte la tradition des opprimés, ce qu'il appelle la tradition des opprimés, ainsi que l'histoire des vaincus. En critique d'une certaine philosophie du progrès qui inclurait Hegel d'ailleurs et d'autres philosophes qui développent une pensée de l'histoire des vainqueurs. Donc l'idée de Benjamin, c'est de prendre le contre-pied de cette manière d'écrire et de penser l'histoire. Effectivement, l'idée, c'est de brosser une histoire à rebrousse-poil, au sens où, au lieu d'un discours linéaire et nécessitariste, continu, on va essayer de retrouver dans l'histoire des alternatives, des possibilités oubliées, ce que Ethan Kleinberg appelle dans le volume des passés possibles ou des possibles passés pour en faire aussi une source de réflexion, voire tenter de les réactiver, d'où l'intérêt de Benjamin aussi pour le socialisme utopique du 19e siècle, comme autant de possibilités inabouties, mais qui pourraient encore avoir un sens aujourd'hui. Et cette attention à l'histoire des vaincus, c'est une dimension philosophique, mais aussi historiographique, puisqu'on peut en faire un... Même des historiens en ont fait un modèle pour écrire une histoire du point de vue des vaincus. En préparant l'émission, vous évoquiez Nathan Vachtel, effectivement, pour les Indiens du Pérou au XVIe siècle, mais on peut mentionner aussi Edward P. Thompson, ou du point de vue de la philosophie, Jacques Rancière, et qui sont donc qui ont développé une approche de l'histoire centrée sur les vaincus, les anonymes, les oubliés de l'histoire.
Alors je me suis demandé si cela ne pouvait pas se rapprocher de l'aphorisme de Rabbi Nachman de Bratslav, quand on parle de cette dimension de retour vers le passé pour rédimer à la fois le passé, mais réouvrir à des possibilités nouvelles. Rabbi Nachman de Bratslav qui dit, c'est en araméen, « En zikaron ela de alma de ate », il n'y a de souvenir que du monde futur, que j'ai traduit par « souviens-toi de ton futur », mais qui peut se traduire aujourd'hui à l'ombre de la pensée de Binyamin, « n'oublie pas de donner un futur à ton passé », ce qui peut s'entendre dans plusieurs sens différents. Myriam Binenstock.
Oui, alors c'est une très belle traduction et c'est effectivement une phrase qui nous fait poser des questions fondamentales à la pensée de l'histoire et à la pensée du temps. Souviens-toi, il n'y a de souvenir que du monde futur. Quel est le rapport entre passé, présent et futur, et comment conceptualise-t-on ces trois dimensions du temps, en particulier en hébreu? Nous avons une expression, un verbe hébreu, qui est en fait écrit au passé, « Ahavta, tu as aimé », et qui se transforme en futur par la grammaire hébraïque, par le « vav », qu'on appelle le « vav conversif », et l'expression est utilisée à ce moment-là, au futur. En fait, donc, souviens-toi de ton futur, c'est exactement ce que cela signifie.
Oui. Je précise pour les auditeurs, parce que vous allez très vite et que c'est quelque chose qui est à la fois éminemment simple, mais tellement génial que je crois que ça mérite que l'on s'arrête dessus. La oui. grammaire hébraïque a inventé cette idée tout à fait extraordinaire, que lorsqu'on place devant un verbe au passé, la conjonction de coordination et et, le verbe devient futur et inversement. Voilà. Et donc, le passé devient futur et le futur devient passé. Alors, comment vous analysez ce point de grammaire extraordinaire qui a des conséquences philosophiques infinies?
Cela montre tout simplement que la conceptualisation du temps en hébreu n'est pas du tout la même que la nôtre. Nous distinguons de façon un peu mécanique entre passé, présent et futur. Et donc, nous pensons que l'histoire va traiter du passé, mais peut-être que en hébreu, les choses ne se disent pas de la même manière et qu'en ce sens, il y a une différence entre la pensée tournée vers le passé, la pensée historique tournée vers le passé, telle qu'on a pu la trouver chez beaucoup de romantiques allemands, et de toute manière, la pensée juive. Alors, et je pense que si vous lisez Hermann Cohen, dont l'ouvrage posthume « Religion de la raison » a été publié il y a tout juste 100 ans, l'an prochain, nous célébrerons d'ailleurs cet anniversaire, eh bien, Hermann Cohen avait écrit dans cet ouvrage que, je cite, « le concept d'histoire est une création du prophétisme ». Vous voyez, il n'y allait pas de main morte. Il disait que, contrairement à l'Antiquité qui s'oriente vers le passé et les origines, il évoquait des mythes grecs, mais il voulait aussi critiquer la valorisation du passé chez les nationalistes allemands avec leur culte d'un peuple originel, et on retrouve les mêmes mythes chez nous. en France. Eh bien, contrairement à cette façon de valoriser le passé, le prophétisme hébraïque est unique parce qu'il regarde, quant à lui, vers l'avenir. Il pose un idéal dans l'avenir. Le mythe, en quelque sorte, où le paradis est dans l'avenir et pas dans le passé, et c'est vers lui qu'il faut tendre. Ce qui ne veut pas dire que Hermann Cohen ne valorisait pas le passé, mais il disait que celui-ci se métamorphose en avenir, et donc c'est bien la grammaire hébraïque, la façon qu'a la langue hébraïque de comprendre le temps qui sous-tend ses thèses et que l'on retrouve, qui affleure en quelque sorte à la surface chaque fois que parle Hermann Cohen. Il y a de l'hébreu derrière, il privilégiait donc le futur et l'avenir dans l'histoire.
Merci Myriam Binnenstock, merci Christophe Bouton pour ce bel exercice de retour vers le futur. Merci de nous avoir donné envie non seulement de vous lire, mais de nous avoir initié à ces problématiques complexes et de nous avoir éclairé sur la pensée d'auteurs réputés non sans raison difficiles. Je renvoie à ce livre, L'expérience du passé, histoire, philosophie, politique, aux éditions de L'Éclat paru en 2018. Les lecteurs y retrouveront vos contributions, mais aussi celles d'Antonia Birnbaum, Olivier de Villers, Jeanne-Marie Gagnebin, Ethan Kleinberg, Guéraud Poumared, Michel Rio-Sarcé, Stéphanie Rosa, Barbara Stiegler et Norbert Vachek, un collectif sous la direction de Barbara Stiegler et vous-même Christophe Bouton, un livre qui, comme je le disais au début de l'émission, rend particulièrement joyeux et intelligent. Merci encore Myriam Binnenstock et Christophe Bouton.
Merci à vous.
Merci bien.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wacknin. À la prise de son aujourd'hui, Julien Douminck. À la réalisation, selon la formule traditionnelle, Dany Journeau. Et tout aussi traditionnellement, Koltouv, Leitraut. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.